On a aidé vraiment l'organisation à voir à quel point ils étaient durables ou pas par rapport à leur empreinte carbone. Je me suis rendu compte que les entreprises commençaient à vraiment avoir des programmes assez concrets dans tout ce qui est développement durable. Et donc maintenant, je sais typiquement voilà, quelle est moi, mon empreinte carbone personnelle, quelles sont aussi les sources d'émissions qui sont les plus importantes dans ma vie et comment est-ce que je peux réduire mon empreinte carbone.
Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Salut, c'est Lola. On se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards avec Jean, où l'on va parler de son rôle de senior consultant en sustainability chez Deloitte. Que fait précisément un consultant en sustainability au quotidien? Comment en arrive-t-on là et quelles sont les compétences nécessaires pour tenir ce poste? Quelles sont les difficultés ou challenges de ce job? A-t-on une impression de greenwashing lorsqu'on travaille en tant que consultant en sustainability? C'est avec Jean qu'on a décidé d'aborder ces différentes questions. Jean a été diplômé d'un master en ingénieur de gestion à l'ICHEC en 2017. Après avoir fait un stage en supply chain chez Heineken durant ses études, il a commencé à travailler en tant que stratégie analyste chez Accenture. Il a ensuite travaillé 6 mois chez Roche Diagnostic Belgium, avant d'occuper son poste de sustainability senior consultant chez Deloitte, où il travaille maintenant depuis 9 mois. Si le conseil, et plus particulièrement le conseil en sustainability, t'intéresse, alors cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite surtout pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Jean, bienvenue sur Best Regards.
Hello Lola, merci beaucoup, merci pour ton accueil.
Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous donner un aperçu de comment ton département est structuré et plus spécifiquement ton équipe sustainability?
Oui, alors donc Deloitte, c'est quand même une grande entreprise. Je crois qu'en Belgique, il y a 4500 personnes. Et du coup, moi, je suis dans le département qui s'appelle Risk Advisory. C'est un département où il y a 1500 personnes environ. Et on s'occupe de tout ce qui est gestion des risques. Maintenant, il y a d'autres départements chez Deloitte, comme le département consulting, tax and legal, etc. Mais voilà, nous, c'est vraiment spécifiquement sur tout ce qui est gestion de risques. Et dans cette gestion de risques, il y a l'équipe Sustainability, où là, on est une vingtaine de personnes, je dirais, dont la moitié a été recrutée dans la dernière année. Donc c'est un petit département, mais qui grandit beaucoup. On est vraiment en pleine croissance, et c'est chouette, parce que du coup, il y a plein de nouveaux collègues qui nous rejoignent. Et donc, ce département, qui est assez neuf, en fait, a été sous-divisé en 6 différents sous-groupes. Il y a Sustainability Strategy, Climate and Energy, Sustainable Finance, Circular Economy, Sustainability Performance Management et ESG Reporting and Assurance. Donc voilà, tout ce que je peux faire, c'est rapidement décrire chaque sous-groupe. En fait, en Sustainability Strategy, par exemple, ce qu'on va typiquement faire, c'est regarder où l'entreprise en est d'un point de vue sustainability, là où ils veulent aller et quel est le chemin pour y arriver. Donc c'est vraiment voir comment est-ce que l'entreprise peut devenir plus durable, peut atteindre ses objectifs d'être neutre en carbone d'un point de vue 2050, enfin voilà. D'un point de vue climat-énergie, là, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est énergie renouvelable, à tout ce qui est hydrogène, à tout ce qui est empreinte carbone de l'entreprise. Et donc aussi, par exemple, faire un scénario de décarbonisation, ça va être aussi le rôle des gens qui sont dans le sous-groupe Climate and Energy. Il y a un autre sous-groupe qui s'appelle du coup Sustainable Finance, où là, c'est principalement pour tout ce qui est l'industrie de la finance, donc les banques, les assurances, etc. Et là, il s'agit de voir... donc, une entreprise comme une banque a énormément d'actifs dans sa possession qu'elle gère, quoi. Et c'est voir, OK, à quel point est-ce que ce portefeuille d'actifs est vert, à quel point ce portefeuille d'actifs est durable, en fait. Et puis ensuite, on a aussi tout ce qui est circular economy, donc tout ce qui est relié à l'économie circulaire, donc au lieu d'avoir une économie linéaire où on utilise, on jette, eh ben on va essayer d'aller fermer la boucle et créer des produits qui sont plus durables ou plus réutilisables, essayer d'avoir une chaîne d'approvisionnement ou une supply chain qui est plus circulaire, etc. Et puis les deux derniers, donc Sustainability Performance Management, là c'est plutôt lié à tout ce qui est software pour faire analyser la performance d'une entreprise d'un point de vue sustainability. Je peux parler de SAP ou de Salesforce, c'est peut-être des noms qui disent quelque chose, mais c'est très spécifique aux entreprises. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est ESG Reporting and Assurance. Donc là c'est vraiment les entreprises qui veulent faire du reporting sur leurs chiffres en sustainability. Que ce soit leur consommation d'électricité, d'eau, leur empreinte carbone, et tout ce genre. Donc tout leur reporting là-dessus. Et Deloitte, qui est aussi une boîte d'audit, va aussi proposer des services pour faire de l'assurance, donc c'est-à-dire certifier que ces chiffres sont valables et valides et ont été contrôlés. Donc voilà, ça c'est un peu une petite introduction à mon département et au sous-groupe.
Ok, super, merci pour cette explication. Donc toi, tu fais partie du sous-groupe Climate and Energy et Sustainability Strategy. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément quelles sont tes tâches au quotidien et donner quelques exemples de projets sur lesquels tu as travaillé ?
Oui, alors ça fait 7 mois, 8 mois maintenant que je suis chez Deloitte en Sustainability et j'ai fait quelques projets différents. Enfin, j'ai dû en faire 5-6, je crois. Il y en a qui sont très courts et qui durent juste quelques semaines, il y en a qui durent plus longtemps, qui vont durer 4-5 mois. Et du coup, j'ai géré 2 projets qui pourraient être intéressants. Un, c'est un projet que j'ai fait pour un gouvernement en Belgique, donc on a plusieurs gouvernements en Belgique, et l'un d'entre eux est venu vers Deloitte pour qu'on leur fasse une étude sur un système de subsides lié à la taxe carbone. Et du coup, ça, c'est typiquement le style de projet qu'on va faire en Sustainability Strategy. On va avoir tendance à soit aider les entreprises à regarder voilà, où elles sont, où elles veulent aller et comment elles veulent y arriver, ou alors, typiquement, on peut faire aussi des études plutôt théoriques, un rapport, une analyse, etc. sur, voilà, ici, c'était un système de subsides. Et du coup, ce système de subsides lié à la taxe carbone, voilà, ça demandait beaucoup d'analyse. Et en fait, le gouvernement voulait savoir s'il fallait maintenir ce subside ou s'il fallait le changer ou bien s'il fallait qu'au moment le supprimer. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en partenariat avec une université belge, on a rendu un rapport d'une quarantaine, cinquantaine de pages. L'université s'est occupée de la partie analyse économétrique, voir okay, si on supprime ce subside, quel va être l'impact pour les entreprises. Et puis nous, on s'est occupé de faire des interviews avec les entreprises qui bénéficiaient de ce subside, faire un questionnaire aussi à toutes les entreprises pour essayer de récolter un peu les données plus qualitatives. Donc l'université s'est occupée des données quantitatives et nous des données qualitatives. Et du coup, on a rassemblé tout ça et on a mis tout ça dans un rapport. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ça m'a vraiment bien permis de comprendre en profondeur le système de la taxe carbone en Europe et tout son fonctionnement et comment est-ce que le gouvernement aide ou n'aide pas justement les entreprises par rapport à cette taxe carbone. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement un projet qu'on ferait. Il y a pas mal d'autres projets qui ont été faits par des collègues sur ce genre de thématique. Un autre projet intéressant que j'ai fait dernièrement, c'est assez marrant, c'est pour le championnat du monde de cyclisme. Donc là, en fait, Deloitte était le partenaire du championnat du monde de cyclisme qui a eu lieu en septembre en Flandre. Donc c'est un championnat du monde qui a lieu chaque année dans une ville différente, un peu comme la Coupe du monde de FIFA ou voilà. Et là, le but de ce partenariat était en fait d'aider le championnat du monde de cyclisme à être plus durable. Donc on a commencé par les aider à définir un peu leur plan, leurs ambitions, quels objectifs ils devaient se fixer et ce vers quoi ils devaient aller, d'un point de vue ESG. Donc environnemental, social et gouvernance, qui sont les 3 piliers du développement durable. Et puis ensuite, pendant les quelques mois qui précédaient l'événement en tant que tel, on a commencé à analyser leur empreinte carbone, avant et après l'événement, enfin pendant tous les quelques mois qui ont suivi. Et puis, on a fait un rapport de développement durable. Donc, en fait, grâce à ça, on a aidé vraiment l'organisation à voir à quel point ils étaient durables ou pas par rapport à leur empreinte carbone, où est-ce qu'ils devaient faire des efforts. Et puis, ensuite, avec le rapport de développement durable, on a montré voilà, tous les efforts qu'ils avaient faits, là où ils pouvaient encore apprendre, etc. Donc, c'est un rapport qui sera public, je crois, dans quelques semaines. Et c'était intéressant vraiment de passer de tout début, donc de définir les ambitions, jusqu'à aller à la fin, de faire un rapport avec un designer, avec quelqu'un qui aidait pour écrire et trouver des beaux mots, etc. Donc c'est vraiment tout le processus de A à Z où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert, ça c'était très chouette.
Ok, top, ça a l'air vraiment super intéressant, en tout cas ce que tu fais. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es arrivé là ?
Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, à la base, en sortant de l'UNIF, j'étais déjà un peu assez intéressé par tout ce qui était développement durable. Mais je trouvais qu'à cette époque-là, donc, bon, je ne suis pas si vieux, mais c'était en 2017, donc c'était il y a 4-5 ans. À cette époque-là, je me suis dit que j'aimais bien le développement durable, mais que c'était encore un peu, de temps en temps, du greenwashing ou assez superficiel. Et voilà, c'était pas encore très concret. Donc du coup, comme j'avais fait une mineure en supply chain, je me suis dit, je vais me lancer dans la supply chain, j'aime bien tout ce qui est optimisation, tout ce qui est résoudre des problèmes, etc. Donc je me suis lancé là-dedans et j'ai fait un stage en supply chain pendant 5-6 mois chez Heineken, qui s'est enchaîné par un job chez Accenture, parce que je travaillais justement chez Heineken avec des consultants Accenture. J'ai travaillé chez Accenture dans le département stratégie, donc du conseil en stratégie, mais avec un focus sur tout ce qui est supply chain, operations, manufacturing, donc production, achat, etc. Et c'était très chouette, vraiment j'ai adoré, c'était une chouette première expérience conseil. Et puis ensuite je me suis dit, bon tiens, je vais aller un peu dans l'industrie, donc j'ai rejoint Roche toujours dans tout ce qui est optimisation des opérations, etc. Et puis là, en lisant un peu, en me renseignant, parce que voilà, j'avais fait quelques efforts pour je cherchais un autre boulot, je me suis rendu compte que les entreprises commençaient à vraiment avoir des programmes assez concrets dans tout ce qui est développement durable. Et vraiment, les entreprises commençaient à avoir des plans de décarbonisation pour essayer d'être neutre d'un point de vue climatique en 2050. Et je me suis dit, OK, c'est peut-être le moment de se concentrer sur la thématique du développement durable et de se lancer. Et du coup, j'ai fait une formation avec l'université de Cambridge qui a duré 2 mois, c'était en ligne, sur tout ce qui était Sustainable Supply Chain. J'ai fait cette formation parce que je voulais justement pas faire un master en entier, quelque chose qui allait durer un an en cours du soir, en plus du boulot, ça l'aide beaucoup. Et donc cette formation de 2 mois, je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir un peu une ligne sustainability sur mon CV, essayer de montrer aux employeurs que j'avais des connaissances en sustainability et de faire le lien aussi avec mes connaissances passées en supply chain. Du coup, j'ai postulé chez Deloitte et le processus, c'était assez rapide. J'ai eu 3 interviews. C'était une première interview RH assez classique, où on demande les habituels, quelles sont tes forces, faiblesses, ton profil, donc on essaie de comprendre un peu ton profil. Puis une deuxième interview avec un directeur, où là j'ai pas eu de case, enfin, en tout cas il n'y avait pas de case dans notre équipe Sustainability, c'était plutôt pour tester mes connaissances en sustainability en général, tout ce qui est lié au développement durable. Et puis j'ai eu une dernière interview avec le partenaire, et ensuite ça a débouché sur un contrat, donc j'étais vraiment ravi. Voilà, c'était pas facile de quand même faire ce petit changement d'orientation de la supply chain à la sustainability. Mais j'ai un peu voilà, essayé d'utiliser mon expérience conseil comme base pour enchaîner sur du conseil en développement durable.
Ok, je vois. Sinon, selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour être un consultant en sustainability? Et est-ce qu'il faut être passionné par le développement durable?
Alors, c'est une bonne question. Les compétences nécessaires, bon, je dirais que il faut peut-être aimer travailler tout ce qui est un peu court terme. Bon, ça dépend des consultances, hein, mais typiquement, là maintenant chez Deloitte, c'est des projets qui sont plutôt court terme et donc on va avoir des échéances à court terme. C'est assez dynamique, c'est très chouette, mais voilà, il faut aimer ce dynamisme à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une bonne école parce que ça nous apprend à être très méthodique, très structuré, avoir de la rigueur. Parce qu'en fait, il faut typiquement, on travaille pour des clients, donc les clients sont des entreprises et on doit faire, ils vont nous approcher parce qu'ils ont un besoin, ils essaient de résoudre un problème ou bien ils souhaiteraient améliorer quelque chose. Et donc, il faut qu'en tant que consultant, on sache les aider et les aider de manière méthodique et structurée. Donc, c'est-à-dire on doit vraiment avoir une approche pour leur dire, voilà comment est-ce qu'on va résoudre votre problème, voilà comment est-ce qu'on va vous aider. Donc, toute la méthode, la structure, c'est très important. Et puis, une fois qu'on a fait toute l'analyse, la méthode, enfin, en utilisant une méthode, etc., il faut pouvoir communiquer si ces solutions existent. Et du coup, toute cette partie communication est tout aussi importante. Donc, vraiment, c'est une bonne école pour apprendre à être méthodique, rigoureux, structuré, mais aussi apprendre à communiquer des résultats. Et puis ensuite, est-ce qu'il faut être passionné en développement durable? Bah, c'est pas obligatoire. Maintenant, c'est toujours un plus. Moi, j'aime bien pouvoir un peu travailler pour quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir un lien entre mes passions et mon boulot. Donc, c'est pas un must, mais c'est vraiment bien de pouvoir allier ses passions et son travail.
Ok, ça va, bon à savoir. Sinon, quels sont les aspects que tu aimes le plus, ainsi que les difficultés ou challenges que tu rencontres dans ce job?
Alors, ce que j'aime le plus, bah évidemment, comme j'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est sustainability, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir travailler au jour le jour sur des sujets qui sont liés à ce que je suis au quotidien, d'un point de vue perso aussi. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir faire le lien, par exemple, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Enfin, un exemple tout bête, c'est que j'ai fait des calculs d'empreinte carbone donc pour le championnat du monde de cyclisme, mais aussi pour d'autres entreprises. Et donc, maintenant, je sais typiquement, voilà, quelle est moi, mon empreinte carbone personnelle, quelles sont aussi les sources d'émissions qui sont les plus importantes dans ma vie et comment est-ce que moi je peux réduire mon empreinte carbone d'un point de vue perso. Donc ça c'est un plus. Mais ensuite typiquement dans la consultance, ce qu'on va trouver comme aspect très positif, c'est le fait d'avoir des expériences variées. Donc moi j'ai déjà travaillé sur pas mal de projets différents, c'est typique dans la consultance. On va retrouver un esprit très jeune et dynamique. Parce que c'est souvent des jeunes qui sortent de l'université et qui travaillent là-dedans. Donc en fait, c'est presque une continuation de l'université. Parce que je disais que c'était une chouette école pour apprendre à être méthodique et structuré, etc. Mais c'est aussi une chouette école parce qu'il y a plein d'autres jeunes avec nous. Et c'est vachement allez, moderne. C'est des boîtes qui évoluent assez vite. Et puis, au niveau du contenu du travail, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une partie de réflexion où on doit un peu donner son point de vue, faire preuve d'esprit d'analyse pour voilà, résoudre la problématique du client ou améliorer le problème chez le client. Donc ça, c'est assez chouette. Maintenant, dans chaque job, il y a toujours des challenges. Moi, ce que je dirais, c'est que quand je suis arrivé chez Deloitte, j'étais hyper motivé parce que justement, c'était une thématique qui m'intéressait énormément. Et du coup, ça a été un challenge pour moi de trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie personnelle. Parce que, voilà, il y a pas mal de pression, il y a quand même des horaires de travail qui sont assez lourds. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que j'ai des amis ou des collègues qui ferment leur ordi tous les soirs à 8 heures. Il y en a d'autres qui décident de travailler le soir. C'est un peu une question personnelle. Mais c'est clair qu'il y a peut-être un peu plus de travail en consultance que dans d'autres industries. Et puis ensuite, ce qui peut être aussi quelque chose qui peut aller effrayer certaines personnes en conseil, c'est qu'on ne travaille pas directement pour une entreprise qui va produire un produit. On va avoir plutôt tendance à conseiller des entreprises qui elles-mêmes vont avoir des activités par après. Donc on peut être de temps en temps un peu loin de la réalité, on va dire, donc loin de ce qui se passe réellement sur le terrain. Par exemple, typiquement, l'analyse que j'ai faite pour un des gouvernements en Belgique sur le système de subsides, c'était un rapport qu'on va remettre et en fait, il y aura peut-être une décision qui va venir derrière par rapport à ce mécanisme de subsides, mais c'est assez théorique et c'est pas spécialement très pratique et proche de la réalité, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà, ça c'est un peu les deux seuls challenges, mais en règle générale, c'est une expérience assez chouette de travailler là-dedans et c'est très dynamique, donc c'est ce que j'aime bien.
Ok, je vois. Sinon, est-ce que tu as parfois l'impression que tu travailles en sustainability, mais que c'est très procédural et un peu du greenwashing, en fait?
C'est une bonne question. Et je dirais que justement, bah, à l'époque, en sortant de l'UNIF, ça l'était pas mal. Enfin, ça l'était un peu plus. On voyait des annonces, on voyait que les gens se disaient, enfin, les entreprises se disaient sustainable parce qu'elles faisaient le moindre petit effort. Maintenant, ça commence à devenir plus concret dans le sens où, voilà, on sait que 2050 approche, les entreprises vont devoir faire des efforts. Et il y a des, par exemple, des labels qui commencent à exister sur comment est-ce que l'entreprise peut réduire son empreinte carbone et respecter ça d'un point de vue scientifique. Donc, il y a des trucs qui s'appellent le Science-Based Target. C'est typiquement un label qui va dire, voilà, cette entreprise-là, c'est certifié qu'elle a des ambitions qui sont en ligne avec ce que les scientifiques disent. Donc, il y a de moins en moins de greenwashing et ça devient de plus en plus concret. Mais maintenant, c'est clair qu'il y a des entreprises, par exemple, qui sont encore au tout début de leurs efforts et au tout début de leur courbe d'apprentissage. Et donc, elles vont communiquer sur le moindre petit effort de sustainability qu'elles vont faire. Et après ça, c'est pas mal, mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par après. Mais d'un point de vue personnel, je suis assez positif par rapport au projet que je fais, parce que je ressens pas cet aspect greenwashing. Et c'est pour l'instant plutôt des entreprises qui ont vraiment envie de faire des efforts. En fait, je dirais que les entreprises qui n'ont pas tellement envie de faire des efforts en sustainability vont avoir beaucoup moins tendance à appeler des consultants pour faire ça.
Merci de ta réponse. J'ai une dernière question pour toi. On conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos auditeurs. Quel serait le tien?
Alors, typiquement, bah, je dirais, voilà, on est tous passés par le stade de réflexion en sortant de l'université. Moi, ce qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est de parler avec énormément de gens. C'est vraiment aller à des. J'avais été à une foire en sortant de l'UNIF. J'avais parlé avec un architecte, parce que j'hésitais entre à faire architecture, ou bien bio-ingénieur, ou bien à me lancer dans tout ce qui était justement. Pardon, ça c'était en sortant de l'école. J'avais hésité à faire architecture, bio-ingénieur, ou bien à me lancer justement en école de commerce. Et pour finir, en discutant avec tous ces gens, j'ai réussi à trouver un plus ou moins ce qui m'intéressait, ce dans quoi j'étais fort, etc. Donc je dirais, discuter avec des gens qui ont un job qui a l'air d'être intéressant, c'est ce qui va aider le plus. Moi, j'avais identifié un peu une ou deux personnes comme ça qui avaient un job qui paraissait hyper intéressant en sortant de l'UNIF. Et je les avais contactés, j'avais discuté avec eux. Et j'ai vu qu'en fait, voilà, ça, je trouvais ça trop bien ce qu'ils faisaient, ça, j'aimais un peu moins. Et il n'y a pas besoin d'avoir un réseau gigantesque pour ce genre de choses. Typiquement, moi, j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn alors que je ne les connais pas. Et je suis toujours ravi de les aider. Je sais qu'il y a moyen de même utiliser l'option premium sur LinkedIn. Il y a un mois gratuit et ça permet d'envoyer des messages à n'importe qui. Donc voilà, ce n'est pas inaccessible. Et ces gens-là vont nous aider dans la réflexion en général. Et puis après ça, oui, évidemment, moi, ce que j'avais fait avant de passer en consultance en sustainability, j'avais analyser un peu d'un point de vue perso, ce que j'aime bien, ce dans quoi je suis fort et ce pourquoi il y a moyen d'être payé au final. Et si on combine un peu les trois, on trouve toujours un juste milieu entre les passions et ce qu'on souhaite faire dans la vie. Donc voilà. Mais surtout, pas hésiter à discuter avec des gens en soirée, avec des amis, etc. Parce que c'est ce genre de réflexion qui va alimenter une chouette carrière.
Ok, super, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine!